Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Eric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Colol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Alberto Fernandez a rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Lancement d'une alerte épidémiologique pour cocaïne empoisonnée. Un laboratoire argentin autorisé à vendre le vaccin russe Sputnik. Le lauréat du prix Nobel Stiglitz estime que l'accord entre l'Argentine et le FMI constitue un précédent. Première course automobile à réunir uniquement des pilotes féminines en Argentine. Les protocoles pour la rentrée scolaire en Argentine. L'intellectuel argentin Noé Jitrik, nominé pour le prix Nobel de littérature. Le président Alberto Fernandez s'est rendu en Russie, où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine dans le cadre de la tournée internationale qui se poursuivra en Chine et à la Barbade. À l'issue de la réunion au Kremlin, le président argentin a souligné qu'il avait dit à son homologue russe que l'Argentine traverse une situation très particulière en raison de son endettement, et a ajouté que l'économie dépend beaucoup de la dette contractée auprès du FMI et de l'influence que les États-Unis ont dans cette organisation. Le président a également indiqué que le contexte est très favorable pour compléter beaucoup plus le lien entre la Russie et l'Argentine. Pour sa part, Poutine a reconnu « Il existe un grand potentiel pour approfondir nos liens commerciaux et économiques ». Alors que 22 personnes sont mortes après avoir ingéré de la cocaïne empoisonnée et que 80 autres ont été hospitalisées dans la banlieue ouest de Buenos Aires, le gouvernement a lancé une alerte épidémiologique concernant une drogue probablement coupée avec de la morora. Selon des sources gouvernementales de la province de Buenos Aires, la vente a eu lieu dans un bunker à drogue situé dans le bidonville connu sous le nom de Puerta Ocho dans la ville de Hurlingham. Le procureur impliqué dans l'affaire a anticipé qu'il s'agirait d'un acte intentionnel qui, jusqu'à présent, a affecté des consommateurs à faible revenu de la région. Le laboratoire argentin Richmond a été autorisé à partir du jeudi 3 février à commercialiser le vaccin Sputnik V contre le coronavirus dans le pays et à l'étranger, directement et pour le compte du fonds d'investissement souverain russe. À ce sujet, la ministre de la Santé, Carla Bisotti, a déclaré « Il s'agit d'une annonce très importante en ce qui concerne la possibilité pour l'Argentine de faire partie de la chaîne de production, non seulement pour l'approvisionnement national, mais aussi pour l'exportation ». Selon le ministère de la Santé, le laboratoire Richmond sera en mesure de commercialiser directement le vaccin, tant le composant 1 que le composant 2, et de commencer également le processus d'exportation vers d'autres pays d'Amérique latine, comme le Pérou, la Bolivie et la Colombie. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz a déclaré que l'accord entre l'Argentine et le Fonds monétaire international constitue un précédent en termes de restructuration de la dette, car l'organisation multilatérale, contrairement aux occasions précédentes, n'a pas insisté sur son argument d'austérité. L'accord donne à l'Argentine une marge de manœuvre pour poursuivre son redressement économique, a déclaré Stiglitz dans un article du magazine Foreign Policy. Pour l'économiste, l'accord argentin donne aux autres pays endettés l'espoir qu'ils peuvent se tourner vers le FMI sans que celui-ci n'impose une austérité préjudiciable et d'autres conditions contre-productives. Espérons que ce soit le cas, a-t-il conclu. La première course de l'histoire de la compétition automobile nationale à réunir uniquement des pilotes femmes de tout le pays aura lieu le dimanche 13 février à l'autodrome Ville de Viedma dans la province de Río Negro, en Patagonie argentine. La gouverneure Arabella Carreras a déclaré lors de l'annonce que les femmes pilotes de tout le pays viendront dans notre capitale pour partager cette catégorie. C'est un pas de plus vers un sport plus égalitaire. Avec cette décision, nous modifions le paradigme de cette compétition où ce sont toujours majoritairement des hommes qui conduisent les véhicules, a-t-elle ajouté. Les ministres de l'Éducation, Jaime Persic, et de la Santé, Carla Bisotti, ont tenu une réunion avec des spécialistes et ont analysé les protocoles pour maintenir une fréquentation complète et sûre pendant l'année scolaire 2022 dans tout le pays. Parallèlement, la campagne Vaccination Action a été relancée, qui promeut la vaccination comme la meilleure stratégie de santé pour la prévention et le contrôle des maladies évitables, selon un communiqué officiel. La campagne vise à sensibiliser les familles, les soignants et les accompagnateurs d'enfants et d'adolescents à l'importance du calendrier vaccinal national, notamment pour la rentrée scolaire. L'écrivain et critique littéraire Noé Jitrik a été proposé pour le prix Nobel de littérature par un groupe d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels qui, dans une lettre envoyée à l'Académie suédoise, ont souligné son écriture originale et surprenante, son œuvre littéraire qui a combiné, de manière séminale et éclairante, une éthique sociale avec un engagement politique et sa voix reconnaissable à la douceur abrasive de son écriture. Sa candidature a été soutenue par des intellectuels et des écrivains d'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Jérôme Guillot, professeur à la retraite au Collège français de Martinez, banlieue nord de Buenos Aires, actuellement conseiller représentant les Français de l'étranger en Argentine, a sorti en septembre dernier un livre indispensable quand on parle de l'histoire commune entre la France et l'Argentine. Resiliencia, résilience, une œuvre de presque 600 pages de témoignages poignants sur les temps de la dictature militaire en Argentine de 1976 à 1983, qui a entraîné, outre la prison, la mort et 30 000 disparus, un grand nombre d'exilés dans le monde, des centaines d'entre eux en France. Dans la présentation de ce livre, qui pour l'instant n'a qu'une édition en espagnol, il est dit: cet ouvrage, à travers une compilation de 53 témoignages, nous livre le parcours d'Argentins et de Français dont l'existence fut bouleversée à jamais par le coup d'État du 24 mars 1976, un événement qui fit entrer l'Argentine dans les pages les plus sombres de son histoire. Loin des grands faits historiques, nous embrassons tous les drames de cette époque à travers des récits du quotidien depuis l'Argentine et la France. Des histoires tragiques, épiques, émouvantes, parfois drôles, toujours poignantes. Elles touchent leur existence pour laisser des marques indélébiles à jamais. Jérôme Guillot a eu l'amabilité de nous présenter lui-même son livre Resilience.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando.
Ce projet est né au Chili, paradoxalement. J'étais à Santiago pour des raisons de travail et j'étais à l'époque en contact avec Michel Bourguignat, qui était le président de la section de Santiago de Français du Monde ADFE, une organisation, une association qui regroupe, essaye de regrouper les Français de l'étranger pour essayer de régler leurs problèmes, en fait, et de créer une communauté. Et ce jour-là, Michel, qui m'avait invité, me présente un livre. Et c'était un livre de témoignages qui relatait les événements du 11 septembre 1973, qui est la date du coup d'État avec l'accession au pouvoir de Pinochet et la mort tragique de Allende. Et comme il n'y avait pas eu de mouvement pour parler de cette date tragique, 40 ans après, il s'est dit: je vais faire quelque chose parce que c'est pas possible. Et donc il a réussi en 6 mois à faire un petit livre avec une quinzaine de témoignages parlant de cette journée et surtout de l'action de l'ambassade de France qui eut un rôle très important pour accueillir des réfugiés à l'époque. Ce livre en fait a déclenché en moi le désir de faire la même chose pour l'Argentine. On était en 2013, les 40 ans c'était 2016, hein, 24 mars 1976 donc 2016. Je me disais, ça me donne un peu de temps. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça a débordé un petit peu puisque le livre est sorti en 2021. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose en Argentine? Donc l'idée a commencé à germer. J'ai proposé ce projet aux gens de la section de Buenos Aires qui étaient d'accord. Ensuite, j'en ai parlé à Français du Monde à Paris. J'en ai parlé avec des sénateurs qui m'ont donné une aide financière. Et donc, peu à peu, je me suis mis à réfléchir à la manière de faire ce livre. Et c'est comme ça que le projet est né. D'autre part, personnellement, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai une formation d'historien. Et il me semble que ce genre d'événement, même si on en a beaucoup parlé, en trouvant une autre approche, des éléments peut-être un petit peu différents, on pouvait toujours apporter une pierre à l'édifice. Donc, il a fallu, bien entendu, partir à la recherche de témoins. Alors l'idée, comme le projet était soutenu par une nation française, c'était de trouver d'abord un fil rouge, qui n'était pas évident à trouver. Alors le fil rouge, ça a été d'être français et d'avoir vécu en Argentine cette période difficile, ou alors d'être argentin et d'avoir un lien, quel qu'il soit, avec la France, c'est-à-dire les études, mariage, ou alors même voir l'exil. Il ne s'agissait pas de parler uniquement du 24 mars, mais de parler bien d'une période, c'est-à-dire au début, 76-83, et finalement, on a débordé sur les années d'après, puisque en fait, les traces laissées par cette période sur les gens sont pérennes. Jamais elles ne partiront. Donc, ces témoignages, au total, on en a obtenu 53. Et la quantité de témoignages faisait qu'il était absolument impossible de les présenter les uns après les autres pour justement provoquer un certain ennui de la part du lecteur, d'autant que parfois il y a certains thèmes qui se recoupent selon les témoins. Donc à partir de là, il a fallu découper tous ces témoignages en thématiques pour essayer de dégager une structure au livre. Et de ces thématiques, j'ai pu en ressortir sept qui en fait donnent la charpente du livre. Et chacune de ces thématiques est subdivisée en sous-thèmes qui parlent de périodes bien précises ou d'événements bien précis. Alors, le premier chapitre traite des temps de la dictature, de l'époque de la dictature, c'est-à-dire de 1976 à 1983, du vécu du quotidien en Argentine, à partir des prémices, c'est-à-dire des annonces du coup d'État, qui étaient absolument prévisibles, jusqu'au retour de la démocratie. Le deuxième chapitre traite du terrorisme d'État, avec la persécution aux opposants, les gens qui étaient en prison et qui sont restés très longtemps et qui racontent leur quotidien, et bien entendu les disparitions, la recherche des fameux NNE. Et tout ce qui a été fait pour pouvoir essayer de retrouver les personnes dont on avait perdu la trace. C'est un chapitre assez émouvant. Le troisième chapitre traite, lui, de l'exil. C'est-à-dire que beaucoup d'Argentins ont dû quitter le pays, et souvent en prenant des routes un petit peu étranges, pour des raisons, bien sûr, politiques, de persécution. Et il parle de ce déplacement de l'Argentine vers l'Europe, vers la France. Puis ensuite, dans ce même chapitre, il y a le quotidien vécu en France, comment les gens se sont installés, etc. Et pourquoi ils ont choisi la France. Ensuite, un quatrième chapitre, lui, revient sur les actions politiques. Parce qu'en fait, très souvent, lorsque les Argentins qui étaient exilés, souvent pour des raisons politiques, en fait, ont repris d'une certaine façon la lutte politique pour dénoncer la dictature. Donc il y a tout un chapitre là-dessus avec toutes les organisations mises en place par les exilés. Et un second thème qui traite plutôt du côté français, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui étaient solidaires. Il y a une grande solidarité côté français. On ne parle pas de la solidarité gouvernementale, hein. On parle d'une solidarité des gens, des associations, etc. On dirait les ONG maintenant, qui ont beaucoup fait pour justement accueillir ces exilés et dénoncer les méfaits de la dictature. Ensuite, un cinquième chapitre traite d'événements historiques qui se sont déroulés pendant la période 76-83. Il s'agit du conflit qui a failli se terminer en une guerre ouverte entre le Chili et l'Argentine en 1978, le conflit du Beagle, du canal du Beagle, qui se trouve tout au sud. Ensuite, bien entendu, les deux événements majeurs, c'est-à-dire la Coupe du monde de football en 1978, qui a provoqué d'énormes remous, beaucoup plus qu'on ne croit peut-être, et bien entendu la guerre des Malouines, qui d'une certaine façon annonce la fin de la junte. À partir de là, il fallait donc aller vers une conclusion du livre. Bien entendu, il y a le retour de la démocratie avec l'élection de Raoul Alfonsine, donc tout un chapitre traite du moment du retour de la démocratie, c'est-à-dire pour les exilés, que faut-il faire? Est-ce que je reviens? Est-ce que je ne reviens pas? Et comment était le vécu en Argentine même lorsque les militaires ont quitté le pouvoir? Et enfin, un dernier chapitre qui s'appelle Huellas en espagnol, ce serait un peu des traces, des blessures, on dirait un peu comme ça, hein, des blessures qui restent. Parce qu'en fait, quand on écoute les témoignages de tous ces gens, et ça explique le titre du livre, Resiliencia, on voit que en 1983, bien entendu, les militaires ne sont plus au pouvoir, mais pour les gens, les traces sont toujours là, des souffrances, des recherches, des militaires qui sont libres, presque impunis, etc. Et donc, il m'a paru important de terminer ce livre sur les années qui ont suivi, et qui continuent maintenant encore, qui ont suivi 1983, pour montrer qu'en fait, cet exil ou ce vécu pendant la dictature a laissé des traces indélébiles dans la vie de ces témoins. C'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier, absolument. Alors, je pourrais revenir enfin sur le titre que nous avons trouvé. Ça a été très difficile de trouver un titre. On a beaucoup hésité. Finalement, on a choisi Resiliencia, ce qui n'est pas très original, parce que c'est un mot assez à la mode, qui a été inventé par Boris Cyrulnik, un sociologue français. Mais si un mot pouvait résumer tous ces témoignages, c'était bien celui-ci. Ce sont des gens qui ont toujours été en résilience, quelle qu'elle soit. Que ce soit des témoins qui ont eu une action politique et qui ont continué à avoir cette action politique, ou d'autres témoins qui étaient là et qui ont dû subir les affres de la dictature et qui en ont payé les conséquences et qui continuent encore aujourd'hui à se battre pour vivre la tête haute. Et donc le titre Résilience résume parfaitement, à mon avis, tous ces témoignages, toutes les existences de ces personnes. Alors bien sûr, ce travail n'est pas mon travail, hein, c'est un travail d'équipe. Beaucoup de personnes m'ont aidé à rechercher des témoins, m'ont beaucoup donné de conseils dans la rédaction. Il y a toujours eu la difficulté de la traduction, parce qu'il fallait traduire le français en espagnol. Il y a aussi une version prête en français, hein, pour peut-être une édition. Mais sans le travail de toutes ces personnes qui étaient auprès de moi, bien entendu, ça aurait été absolument impossible d'arriver à ce travail qui n'est pas terminé d'ailleurs. En fait, à un moment donné, une des personnes m'a dit, Jérôme, il faut que tu arrêtes parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et de fait, c'est un livre qui n'a pas de fin. Un autre élément important aussi, à mon avis, c'est que la plupart de toutes ces personnes sont des personnes qui ne sont pas connues, ce ne sont pas des gens qui ont déjà témoigné. Quelques-uns, oui. Il n'y a aucune personne qui ressort au niveau de la célébrité. Et ça, c'était un petit peu aussi l'objectif de cet ouvrage, c'est-à-dire de faire parler des gens comme nous, des gens de la société qui sont là et qui n'ont peut-être pas eu au moment où il fallait la parole. Et d'ailleurs, certains moments, certains témoignages étaient très émouvants. Certains témoins ont pleuré, la voix qui tremblait, ou même il fallait s'arrêter, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a eu des moments très forts qui montraient à quel point, pour certains tout du moins, je pense même pour beaucoup, pour tous, il était important de pouvoir dire par des mots ce qui leur était arrivé. Autre chose encore, ce n'est pas un livre militant en tant que tel, c'est un livre qui raconte les histoires des gens. C'est-à-dire que personne ne va y trouver un discours politique pour essayer de montrer que telle idée est supérieure à telle idée. Ce sont des gens qui racontent leur histoire sans vouloir convaincre d'une certaine façon. Et cette ligne, pour moi, était très importante. Alors, ce livre a été édité en langue espagnole. Il n'y a pas encore, pour l'instant, de livre, en version française. Et il a été édité par les éditions Notenpoint. C'est une petite maison d'édition dans la zone nord, banlieue de Buenos Aires.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
60 ans, le blocus contre Cuba était mis en place par les États-Unis. Cet embargo économique, commercial et financier a débuté le 3 février 1962 à la suite de nationalisations expropriant des compagnies américaines. La journaliste Maïlys Kider revient sur RT France sur cette politique de Washington.
Maïlys Kider, bonjour.
Le 3 février 1962, il y a donc tout juste 60 ans, le blocus sur Cuba est mis en place. Rappelez-nous quel était l'objectif.
L'objectif, c'était d'étouffer l'économie cubaine et puis de la priver de ressources économiques à un moment où Cuba a mené sa révolution. Donc en 1959, Fidel Castro mène une réforme agraire qui ne plaît pas aux États-Unis puisqu'il proscrit les latifundias, les grandes exploitations sucrières gérées par des grandes entreprises américaines. Et donc ça, les États-Unis décident de ne pas le laisser passer, évidemment, puisque c'est une perte économique gigantesque. Cuba va se rapprocher de l'URSS et puis nationaliser les banques et les compagnies pétrolières, ce qui pèse d'autant moins pour les États-Unis. Donc le but était vraiment de reprendre la main sur l'économie cubaine qui était en grande partie contrôlée par les États-Unis.
Alors depuis, le monde a changé, les relations ont évolué et pour autant les sanctions ont été renforcées au fil des années. Comment l'expliquer ?
Comment l'expliquer ? La relation entre Cuba et les États-Unis s'est durcie au fil des années. Elle est loin de s'être apaisée, sauf très ponctuellement. L'embargo donc est mis en place suite à la crise de la baie des cochons. Enfin, il y a un premier embargo qui est mis en place par Eisenhower, et puis vient la crise de la baie des cochons en 1961, donc défaite cuisante pour les États-Unis, qui avait entraîné des milices qu'ils ont envoyées donc à Playa Girón, dans le sud de l'île. Et puis le 3 février, donc Kennedy décrète un embargo total sur Cuba. Il épargne la nourriture et les médicaments, mais au fil des années, la situation ne s'est pas apaisée. Juste après la mise en place de l'embargo, c'est quand même la crise des missiles où l'URSS installe des missiles à Cuba, donc qui pointent vers la Floride. Et puis les décisions et les réactions s'enchaînent, puis la Havane et Washington se répondent sans qu'aucun ne décide à un moment de tenter de calmer le jeu. Bien au contraire, ça a été l'escalade jusqu'à maintenant.
Il y a eu un réchauffement diplomatique en 2014 sous l'ère Obama. Ça n'a rien changé ?
Alors, l'ère Obama, elle est très souvent connue à tort pour avoir été celle de la levée de l'embargo. Or, Barack Obama n'a jamais levé l'embargo. Il a mis en place des mesures pour réchauffer les relations diplomatiques. Donc, il a notamment réautorisé l'envoi d'argent des États-Unis vers Cuba, qui sont une source très importante d'entrée de devises hein, à Cuba, puisque les familles cubaines qui habitent aux États-Unis envoient de l'argent à Cuba. Il a aussi rouvert les ambassades. Donc ça a été vraiment un message qui poussait au dialogue. Il a rouvert des vols commerciaux des États-Unis vers Cuba. Il a permis des investissements des États-Unis vers Cuba aussi. Mais Barack Obama n'a jamais levé l'embargo, puisque c'est une décision qui relève du Congrès, non pas du président.
Joe Biden, en 2021, lors de sa campagne, il avait promis hein, de réévaluer la politique américaine envers Cuba. Ça en est où ?
Joe Biden n'a absolument pas révisé les mesures qui concernent l'embargo, bien au contraire. Et on comprend assez facilement pourquoi. C'est-à-dire que le 11 juillet, il y a eu des manifestations, comme vous le disiez précédemment. Le 15 novembre, des manifestations avortées. Donc on a un moment où l'explosion sociale à Cuba menace. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout le moment pour les États-Unis d'alléger l'embargo, ou bien au contraire, les États-Unis regardent attentivement ce qui se passe et puis guettent le moment où l'explosion sociale va vraiment mettre à mal, ou pas, hein, le gouvernement. Mais pour Joe Biden, le moment n'est pas du tout au fait de penser à lever l'embargo, puisque Cuba est affaibli, et c'est le but des États-Unis depuis 60 ans. Donc on voit mal comment Joe Biden pourrait prendre la décision maintenant de desserrer l'étau sur Cuba.
Cuba affaibli, vous le disiez, ces sanctions économiques américaines sur 60 ans, c'est très long, hein, c'est la plus longue d'ailleurs sanction de l'histoire. Comment elles se font sentir encore aujourd'hui sur la population cubaine ?
vont sentir très difficilement. La situation cubaine est catastrophique. Hein. J'étais à Cuba cet été. Enfin, j'étais dans les manifestations du 11 juillet. On voyait bien que les gens étaient très fatigués, que ce soit dans les manifestations ou au quotidien d'ailleurs. Ils font la queue pour acheter à manger pendant 7-8 heures, rien que pour acheter du pain, puis ensuite ils refont la queue pour acheter du poulet, puis ensuite ils refont la queue pour acheter du savon. Les gens sont très fatigués, ils en ont ras-le-bol, et en fait ils ne veulent plus savoir si c'est l'embargo, la faute au gouvernement. Enfin, il y a vraiment un ras-le-bol social qui est très prégnant. Et les médicaments ne peuvent plus rentrer, la nourriture ne peut plus rentrer, Cuba importe 80% de ses denrées alimentaires. Et la crise de Covid n'a rien arrangé, évidemment, puisqu'en 2020, ils ont dû fermer les frontières. Donc ça signifie plus de tourisme. Enfin, ça a signifié plus de tourisme pendant plusieurs mois, sachant que le tourisme est une des trois premières sources de devises dans les caisses de l'État cubain. Et puis, le commerce international aussi a été touché par le Covid, surtout pendant les premiers mois de la pandémie. Donc vraiment, Cuba a pâti de tout ça, et puis aller dans une crise qui rappelle un petit peu celle des années 90, la période spéciale après la chute de l'URSS, où vraiment faire entrer les devises est presque impossible. Et Cuba mise beaucoup d'ailleurs sur l'envoi de ses médecins à l'étranger pour faire entrer de l'argent.
Et ainsi se termine ce programme en français de Ra et l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.